Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et pour suivre la ligne droite, nous retrouvons Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Je suis bien là, Alexandre de Galzin.
Alors, vous vouliez nous parler aujourd'hui de la mère d'Elias qui avait été, on le rappelle, tuée à la machette en 2025. Elle accuse un haut magistrat de manque de courage. Alors, comment est-ce que vous analysez ce réveil des victimes ?
Ce réveil des victimes est déjà en soi un phénomène politique. C'est un phénomène politique qui est construit sur le rejet d'un système. Et c'est une évolution qu'il va falloir observer de près. Alors, dans l'immédiat, je reviens à cette déclaration, c'était hier sur Europe 1, et Stéphanie Bonhomme, qui est donc cette mère de famille qui a vu son fils Elias tué à coups de machette il y a maintenant un an par deux jeunes multirécidivistes, a fait une prestation tout à fait remarquable de pondération, d'intelligence et de détermination, en accusant notamment le premier président de la Cour d'appel de Paris, qu'elle nomme Jacques Boulard, d'avoir empêché tout contact, je ne rentre pas dans les détails, mais d'avoir empêché tout contact entre sa famille et les juges des enfants. Et elle a dit de lui, c'est un haut magistrat, mais c'est un petit homme. Et elle lui a demandé sa démission dans une colère froide qui était très impressionnante. Et c'est pour cela que j'ai tenu à revenir sur cette déclaration, parce qu'elle me paraît très significative d'une colère plus générale. Naturellement, ce n'est pas la première fois que les victimes de l'insécurité se révoltent contre le pouvoir, contre le système, contre les juges. Vous vous souvenez bien sûr d'Harmonie Comines, cette femme de gendarme qui avait dit, il y a maintenant peut-être 2 ans, qui avait accusé la France d'avoir accusé son mari. Et c'est un phénomène qui est en soi déjà révélateur d'une exaspération grandissante de la société civile qui se sait aujourd'hui abandonnée et non protégée par un monde politique qui se perd dans la jactance et qui ne voit pas quelles sont les souffrances des gens. J'en parle souvent ici, mais c'est vraiment pour moi un problème fondamental. Ce qui est nouveau avec cette déclaration de la mère d'Elias, encore une fois, c'est que, de mon point de vue, cette prise de position accélère un autre mouvement parallèle à celui de cette révolte des victimes qui exige maintenant, de ce mouvement, que les responsables politiques ou les responsables judiciaires rendent des comptes.
Oui.
Et c'est un mouvement qui ne craint pas non plus de réclamer les noms et de donner les noms des plus hauts responsables. Alors, donc, Madame Bonhomme dit parler au nom du peuple, alors je la cite, au nom du peuple des traumatisés, et elle conteste qu'il puisse encore y avoir des intouchables, notamment dans le monde judiciaire. Je suis bien d'accord avec elle, je pense que nous serons nombreux à la soutenir dans cette vision-là. Et c'est ce grand déballage qu'il va être intéressant d'observer, car il confirme ce que j'ai appelé la révolution des oubliés. J'en ai fait un petit livre il n'y a pas longtemps, car les Français ne supportent plus l'irresponsabilité des puissants. Mmh. Et dans le meurtre et le viol de la petite Liana, à 11 ans, les magistrats fautifs auront d'ailleurs à rendre des comptes eux-mêmes. Il y a un rapport qui a été rendu hier et qui pointe notamment les incompétences, je ne vois pas d'autre mot, de deux gendarmes et d'un magistrat. J'espère que ce ne seront pas des boucs émissaires, mais en tout cas, le pouvoir s'est engagé, répondant à cette résonance de la colère française, s'est engagé à sanctionner en tout cas ce magistrat, ce qui malgré tout semble être une nouveauté, parce que jusqu'à présent, il y avait une sorte d'impunité dans cette corporation. Et le monde judiciaire ne peut plus prétendre plus généralement être à l'abri des critiques. C'est d'ailleurs avec beaucoup de raisons que Marion Maréchal dit qu'elle ne fait plus confiance en la justice française. Je pense que beaucoup de Français sont d'accord avec ce diagnostic. Et dans ce contexte, j'ai trouvé scandaleux que le tribunal de Bobigny ait condamné très récemment le patron du magazine Frontières, Éric Tegner, à 6 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour avoir dévoilé, lui, le nom des avocats. Ce n'était pas des juges, mais c'était des avocats spécialisés dans la défense subventionnée, en l'occurrence, des clandestins. Et le président du tribunal, Youssef Badr, se plaint lui-même maintenant d'avoir vu son nom dévoilé par l'AFP, qui pensait cette fois le féliciter pour son militantisme anti-ségrégation et son palestinisme. Et en fait, on voit qu'on assiste à une panique très générale d'un monde qui refuse encore de se remettre en question. Mais je pense que les dés maintenant roulent et que l'histoire va s'écrire effectivement avec cette mise en cause de tous ces intouchables.
Mais parce que selon vous, effectivement, les intouchables, ils sont également dans le milieu politique.
Alors, les intouchables, ils sont partout. En effet, il n'y a pas que le monde judiciaire qui va être amené à rendre des comptes, c'est tout le monde, c'est tout un système, encore une fois, c'est tout un système qui va être amené à s'expliquer, d'abord sur des erreurs commises depuis 50 ans, il s'agit là d'identifier toutes les idées tordues, toutes les idéologies qui ont dicté des décisions erronées, des décisions saugrenues. On s'aperçoit par exemple que l'idéologie écologiste a interdit d'y mettre de l'air conditionné dans des écoles ou des hôpitaux. On se rend compte maintenant de la grande bêtise de cette religion écologique. Mais donc il y a à faire l'inventaire maintenant de toutes ces idées folles, en effet. Mais au-delà de cela, il faut aussi maintenant nommer tous les hauts responsables, pas seulement les hauts responsables de la magistrature, tous les hauts responsables qui cautionnent encore, qui défendent encore ce système qui tombe en déliquescence. Et la position de François Bayrou, que j'ai lu avant-hier, cette fois-ci dans le journal du dimanche, est très révélatrice de l'incapacité de tous ces mandarins à reconnaître leurs erreurs. Bayrou, dans cette interview, va affirmer notamment, et là je le cite, « l'opinion publique commande ». Et les politiques suivent. Mmh. Il disait également le Rassemblement national de chercher des boucs émissaires. Mais c'est exactement ce que fait Bayrou en désignant les Français comme boucs émissaires des erreurs des élites. Car naturellement, non seulement l'opinion publique ne commande rien, mais le pouvoir fait tout pour la faire taire, notamment à travers une législation de plus en plus liberticide qui, encore une fois, le 1er juillet prochain, avec le dépôt de la proposition du projet de loi Berger, va tenter à nouveau de mettre sous surveillance des propos dits haineux sans qu'il y ait de définition, définition juridique du propos haineux qui pourrait conduire des hommes politiques à renoncer, à ne plus être éligibles. Donc on voit toute cette perversion liberticide qui s'installe au prétexte de faire taire, justement, au contraire de ce que dit Bayrou, de faire taire une opinion publique qui est de plus en plus révoltée. Et d'ailleurs, je trouve que cette morgue de ces élites est un accélérateur de la révolte des Français oubliés. Et de ce point de vue-là, je note, il est également intéressant de souligner l'initiative prise ce week-end par Claire Géronimi, qui était une jeune femme qui avait été violée, et par Guilhem Carayon, qui est un militant ciotiste, qui tous deux viennent de créer le mouvement qu'ils appellent le mouvement des abandonnés.
Oui.
C'est un mouvement qui est très révélateur, effectivement, de ce que je vous décrivais de la colère française, car il entend en plus, notamment, poursuivre l'État, cette fois-ci pour inaction sécuritaire, comme l'État avait d'ailleurs déjà été poursuivi et condamné pour inaction écologique par des écologistes. Et donc, je trouve très intéressant, effectivement, que l'opinion se rende compte maintenant effectivement qu'il faut passer à l'acte. Et d'ailleurs, je trouverais que Macron pourrait très bien lui-même avoir à rendre compte d'une procédure pour haute trahison, en tout cas dans la manière dont il s'est plié face aux pressions allemandes dans la gestion énergétique qui a freiné inutilement le nucléaire et toute cette idéologie décarbonée. Mais effectivement, l'idéologie est emplie dans toutes ces décisions-là. Et donc, on arrive plus généralement à un mouvement, à un moment où il faudra envisager, me semble-t-il, et là je reprends une idée qui avait été celle de Dupont-Aignan dans son dernier livre, de proposer une grande sorte de grande opération main propre pour se débarrasser enfin de ceux qui s'accrochent à leur pouvoir. J'ai écouté dimanche la prestation de Bruno Retailleau, je trouvais intéressant quand il parle de rupture, de radicalisme, de tourner la page, de rupture avec la Macronie, de tourner la page, etc. Je trouve ça très bien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que en même temps, il y avait dans la salle, et il a salué leur présence, il y avait Madame Pécresse, Monsieur Barnier, Monsieur Larcher, c'est-à-dire toute cette droite molle, toute cette droite qui le force encore précisément à s'allier avec ce groupe centriste que j'estime être co-responsable, et ses personnalités aussi, co-responsables des malheurs français. Donc, je n'ai pas bien compris non plus, d'ailleurs, quelle était la logique de Retailleau, hélas. Et moi, si je dois être radical, je dirais que tous ces gens-là qui se sont trompés, tous ces gens-là doivent partir, en fait.
Oui. Mais vous parliez de trahison. Il faut rappeler déjà que ce crime a été supprimé par Nicolas Sarkozy. Peut-être y avait-il intérêt d'une certaine façon, mais enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de juger rétrospectivement tous ces personnages pour leur inaction.
Rien n'est impossible. Je parlais de haute trahison, c'était le symbole, effectivement, mais peu importe. D'ailleurs, on peut rétablir le délit de haute trahison s'il a été supprimé.
C'est vrai.
Mais en tout cas, il faut absolument que les hommes politiques, maintenant, et tous ces décideurs, et tous ceux qui donnent encore des leçons, parce que c'est ceci aussi qui est insupportable, parce qu'en fait, le problème, c'est que tout ce monde-là, ce monde judiciaire, ce monde politique, est incapable lui-même de se remettre en question. Donc, il faut qu'il y ait maintenant des pressions populaires, des pressions de la rue, pourquoi pas, afin de que ces gens cèdent la place, parce que maintenant, je ne vois pas comment on pourrait changer de système avec ceux qui ont mis ce système dans cet état-là.
Effectivement, rappelle qu'effectivement, il ne faut pas croire toutes les promesses de les gens qui nous ont mis dans la panade. Merci beaucoup, Yvan Rioufol, d'avoir été avec nous ce matin, et on vous dit à la semaine prochaine pour votre dernière chronique de la saison.
À la semaine prochaine.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et pour ce nouvel entretien, déjà je salue Mériadec Raffray, bonjour Mériadec.
Alexandre, cher Alexandre, toujours un plaisir de vous retrouver le mardi matin.
Voilà, et comme tous les mardis matins, eh bien, je vais disparaître pour céder l'antenne à Richard Dossez.
Rassurez-vous chers auditeurs, ce n'est que provisoire,
mais voilà. Oui, Alexandre. Oui, c'est un tour de magie, voilà, incroyable,
n'espérez pas
il
trop.
Disparaît et il réapparaît, voilà, à Eurasie, comme je le dis très souvent. Bonjour Mériadec Raffray.
Bonjour Richard.
Voilà, donc vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles, on ne le répétera jamais assez. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler du Venezuela. Non, pas du tout. En fait, on a décidé.
J'étais pas préparé.
On a décidé, on évidemment,
l'avant-dernière,
de parler de l'Ukraine parce que les combats ont repris, parce que la situation géopolitique a l'air d'avoir changé, parce que l'Ukraine ne se rend toujours pas, parce que la Russie a l'air d'être à la peine, parce que, en fait, peut-être la situation internationale a-t-elle défavorablement évolué par rapport à ce que Poutine inespéré.
Et je pense que c'est utile d'en parler parce que chacun affûte à nouveau son narratif, les Occidentaux, mais également évidemment les Russes et les Ukrainiens. Et donc on pensait que c'était intéressant de faire un point pour éclaircir un peu les choses. Et la première des remarques qu'il faut faire, c'est qu'effectivement il y a une évolution en fait en Ukraine qui est d'abord l'augmentation, le durcissement, la multiplication des frappes stratégiques à la fois russes sur l'Ukraine, mais aussi ukrainiennes sur la Russie. Et ça, c'est un facteur important à noter, et c'est un facteur, comment dirais-je, d'escalade. Puisque en fait, et surtout, et je vais détailler cette phase. Donc, on a en fait, d'un côté, une densification, si c'est possible, parce que ça fait déjà quasiment un an que les frappes stratégiques russes sont très massives sur l'Ukraine, puisque on peut dater du printemps 2025 en fait l'augmentation en fait de la densité des frappes sur l'Ukraine, donc sur la profondeur du territoire ukrainien, avec un ciblage des points cruciaux du point de vue des Russes. Des PC, des usines, des nœuds ferroviaires, des entrepôts logistiques, etc., etc. Et là, on a, je peux vous citer par exemple un chiffre qui a été lui-même cité par Volodymyr Zelensky, donc sans doute qu'il est vrai. La semaine dernière, un peu plus de 4000 frappes, tout compris, missiles, drones, bombes, ont été enregistrées à l'arrière du front ukrainien par les autorités, par les forces ukrainiennes, donc des frappes russes. Ce qui est quand même considérable en une semaine, c'est ça vous donne une idée de l'intensité en fait de l'orage de feu et de fer qui s'abat en fait sur l'Ukraine. Et aujourd'hui, notamment depuis 2025, la nouveauté, c'est que les Russes n'hésitent plus à frapper dans les grands centres urbains quand ils estiment qu'il y a un objectif militaire, par exemple un PC enterré ou un plot logistique camouflé dans un entrepôt commercial, dans un endroit en fait urbain, ce qui est un classique de la guerre. On l'observait déjà du temps de Daesh en Syrie, et aujourd'hui c'est la même chose des deux côtés en réalité. Ce qui explique en même temps de temps en temps qu'il y ait effectivement des dommages collatéraux civils. Mais c'est là où à ce moment-là...
On est bien en train de parler, chers auditeurs, de la guerre en Ukraine et non pas de la manière dont Israël est en train de ravager le Liban, mais c'est exactement les mêmes méthodes.
Alors, Ça, c'est pour la partie russe. Et la partie ukrainienne est aussi dans un durcissement et une élongation plus importante, pour parler comme les militaires, des frappes qu'ils opèrent grâce à des drones essentiellement dans la profondeur du territoire russe. Et pour être schématique, il y a deux grandes zones qui sont ciblées par les Ukrainiens. D'une part, des cibles dans la grande banlieue de Moscou, qui sont des cibles logistiques, des cibles symboliques, des cibles qui produisent un effet psychologique important d'abord sur la population plutôt qu'à d'un point de vue militaire. Et puis il y a une autre zone qui est touchée par l'augmentation, la densification de ces frappes ukrainiennes, c'est la Crimée. Là aussi, ce sont des frappes qui touchent notamment les dépôts logistiques, les dépôts de carburant, les camions, les citernes, les camions citernes d'essence. Et ces frappes se poursuivent dans la profondeur du territoire russe, de l'autre côté, donc de la presqu'île, pour faire simple, entre la Crimée et Rostov-sur-le-Don. Toute cette partie qui permet aux Russes d'acheminer en fait la logistique nécessaire au front, à ce fameux front du Donbass qui, je vous le rappelle, est plus long que le front de la guerre 14-18, 1200 km de long. Enfin, encore une fois, je crois qu'on ne se rend pas compte en fait de la densité, de l'importance quasiment inédite de cette guerre de tranchées, de positions, de cette guerre d'attrition qui consiste en fait, puisqu'on ne peut plus emporter la décision par le mouvement, eh bien on tente d'emporter la décision par la capacité à détruire le potentiel ennemi, le potentiel matériel, humain, et le potentiel aussi logistique. C'est ça qui se passe au Liban, 1200 km, c'est absolument incroyable. Donc voilà en fait les deux frappes qui s'affrontent aujourd'hui, avec quand même une différence à mon avis importante, et c'est là où entre en ligne de compte le narratif de guerre que toutes les nations en guerre ont, hein, c'est pas propre à l'une ou l'autre des parties. C'est que d'un côté on a des Russes qui exercent des frappes monstrueuses sur l'arrière de l'ennemi pour détruire ce potentiel et à la fois décourager la population pour que la population, évidemment, fasse pression sur les autorités. Donc ça, c'est classique. C'est la Grande-Bretagne et les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des centaines, des milliers de bombes déversées sur les villes allemandes, sur les ports français. Sachant qu'à l'époque, avec les moyens technologiques dont ils disposaient, la plupart de ces bombes s'écrasaient évidemment sur les populations. Et là, il n'y avait pas des dommages collatéraux, il y avait des destructions systémiques en fait des villes allemandes.
Et théorisé, hein, le général Arthur Harris voulait terroriser les populations.
Exactement. Donc ça, c'est d'un côté, et ces frappes stratégiques sont directement corrélées à les opérations tactiques réalisées par les Russes sur le front, c'est-à-dire qu'elles sont là pour appuyer, soutenir, si entre guillemets bien sûr, les opérations russes au sol qui sont dures, compliquées, qui coûtent énormément d'hommes. Ça, c'est du côté russe, si on comprend à peu près ce qui se passe. Et de l'autre côté, côté ukrainien, on a en fait un rapport un peu différent. Ces frappes sont avant tout faites pour produire un effet politique, symbolique et psychologique. Et d'ailleurs, c'est théorisé aussi par les autorités ukrainiennes, donc c'est pas une déduction, c'est pas une analyse, elles le disent. L'idée, c'est d'accentuer, ou en tout cas de systématiser ce qu'on appelle la fatigue de guerre. Les Américains appellent ça la war fatigue, la fatigue de guerre qui se fait sentir clairement dans les populations russes qui sont directement connectées au front, mais et un peu plus aujourd'hui, ce qui est un élément à mon avis nouveau en fait de l'équation politico-militaire en Russie. Et ces frappes sont faites pour faire pression sur la population, pour, comment dirais-je, oui c'est ça, c'est quelqu'un a expliqué sur les réseaux il y a quelques heures que l'idée c'était que ce soit les Russes eux-mêmes, un peu comme en Iran, donc si vous voyez ce que je veux dire, c'est évidemment une théorie plein de succès, c'était un peu qu'en Iran, expliquer que c'est par la population, en convainquant la population qu'il faut arrêter cette guerre, que peut-être le régime russe va changer, voire même tomber. C'est la théorie que certains développent, pourtant avec un exemple qui n'a pas marché, c'est celui de l'Iran, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Et voilà, et en fait, on observe une asymétrie avec ce qui se passe sur le terrain côté ukrainien, c'est qu'on a tous les indicateurs, contrairement au narratif occidental et français en particulier, tous les indicateurs aujourd'hui, j'ai refait le point avant de venir vous voir, vont dans le sens d'un affaiblissement, d'une attrition considérable en fait des moyens de défense ukrainiens. Il y a énormément de preuves, mais une des preuves les plus flagrantes, c'est le dernier décret du président Zelensky pour accroître en fait sa force humaine sur le front, et notamment les moyens financiers importants en milliards d'euros qu'il demande à l'Union européenne pour pouvoir embaucher, recruter davantage de mercenaires. Soit dit en passant, au début de la guerre, on expliquait que Poutine était un mercenaire, le mercenaire du diable, en ayant augmenté les primes pour encourager les engagements volontaires sur le front plutôt que la levée en masse. Et on disait, c'est bien la preuve que Poutine est dans la panade. Mais aujourd'hui, quand c'est Zelensky qui le fait, c'est une bonne mesure et fait effectivement la meilleure façon de pouvoir résister au rouleau compresseur russe. En fait, en réalité, toutes les armées du monde font comme ça, c'est-à-dire, y compris la nôtre d'ailleurs, quand on envoie des soldats au Sahel, on leur donne une prime supplémentaire, même si ce sont des soldats volontaires engagés et qui sont en plus volontaires pour partir au Sahel, ils ont une prime supplémentaire. C'est la manière dont fonctionnent toutes les armées du monde. Il n'y a pas, sauf dans les périodes révolutionnaires et chez les soviétiques ou chez les Khmer Rouges, il n'y a pas de soldat au monde qui aille se faire défoncer la peau pour zéro copec, sauf si la patrie est en danger, évidemment. C'est une preuve de plus que les commentaires étaient partisans. Et là, on arrive finalement à la vérité des prix, c'est que lorsque les forces vives ukrainiennes sont à l'os, pour reprendre une expression bien connue ici, eh bien la seule solution, c'est-à-dire que les mobilisations, les enlèvements forcés en fait de gens qui s'étaient planqués à droite et à gauche, et ça c'est vrai partout, y compris en Russie. Si on parle plus du million de Russes, de jeunes Russes qui ont fui en fait la Russie en 2022 pour éviter la guerre, bah, c'est la même chose en Ukraine. Les gens préfèrent fuir et donc là ils essayent de compenser par des prix. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est un élément intéressant du potentiel ukrainien qui est en train de se
De fondre,
exactement. C'est la réalité, et de toute façon, cela devait arriver puisqu'on est face à un différentiel de profondeur stratégique qui est considérable. En fait, maintenant, je vais essayer de focaliser sur, faire une synthèse sur ce qui se passe sur le front aujourd'hui. Contrairement au narratif occidental de ces derniers mois, alimenté en particulier, je pense que mon ami Régis Le Sommier a dû vous le dire, par des blogueurs ou en tout cas des influenceurs clairement partisans. Je pense à l'Institut stratégique de la guerre de Washington qui est dirigé, alimenté par des amis de Victoria Nuland. On ne la présente plus ici à l'écran, une américaine qui était sous-secrétaire d'État sous Blair et en charge de l'Ukraine. C'est elle en particulier, et pas seulement elle, mais elle en particulier qui a organisé les révolutions de Maïdan en 2014, avec les fonds que l'on sait directement provenant de la CIA. Donc, ce sont des gens qui sont partisans. Et en fait, cet Institut stratégique de la guerre, l'ISW, publie des cartes régulières depuis le début du conflit. Et en fait, elle nous faisait prendre des vessies pour des lanternes. Autrement dit, lorsqu'il y avait une zone grise dans laquelle les Ukrainiens retrouvaient un peu une zone grise, et on ne sait pas très bien à qui appartient le terrain, tout simplement parce que le terrain n'est pas forcément intéressant à tenir, et donc il y a une zone grise sur le front. Et à chaque fois que cette zone grise existait, une zone grise, et qu'il y avait un semblant d'offensive ukrainienne, les cartographes de cet institut en question validaient en fait la conquête ukrainienne en expliquant que l'ensemble de la zone grise était tombée aux mains des Ukrainiens, ce qui donnait plusieurs centaines de kilomètres carrés repris ces derniers mois à l'Ukraine contre quelques dizaines de kilomètres seulement repris par les Russes. Et donc c'était la preuve qu'il y avait une balance des rapports de force en faveur de l'Ukraine. Eh bien, je pense que ce narratif aujourd'hui, enfin, je pense que de plus en plus, ce narratif va être abandonné. En tout cas, la manière dont moi je comprends les choses, et on est quand même quelques-uns à les comprendre de cette façon-là, c'est que aujourd'hui, le front s'est rallumé du nord au sud, donc de Zaporijjia sur le Dniepr tout au sud-ouest, jusqu'à presque dans les environs de Kharkov, si vous voulez, au nord-est du front. Et ceux qui sont à l'initiative aujourd'hui en matière militaire, ce sont les Russes qui progressent lentement, en y laissant énormément de plumes, mais qui progressent en particulier dans plusieurs régions. Alors, si on essaye de partir du sud-ouest vers le nord-est, signalons déjà quelque chose qui est inédit, c'est que les Russes ont commencé à bombarder un certain nombre de ponts sur le Dniepr, ce qu'ils n'avaient jamais fait depuis 5 ans, ce qui laisse entendre une manœuvre opératoire future dans cet endroit-là. On est du côté de Zaporijjia. Ensuite, on remonte. Les secteurs qui aujourd'hui bougent énormément et qui sont à suivre, c'est d'abord Konstantinovka. Alors, je reprends ma carte parce que pour situer aux auditeurs qui n'ont pas la carte sous les yeux, nous sommes globalement à l'ouest de la fameuse ville de Bakhmout qui avait fait l'objet d'un siège très disputé pendant plusieurs mois, qui était finalement tombé aux mains des Russes avec le renfort des fameux mercenaires de l'homme dont le nom m'échappe aujourd'hui, qui a trouvé la mort dans un avion qui a explosé au-dessus du ciel de la Russie, après avoir voulu en quelque sorte putcher les gens du Kremlin. Donc nous sommes à l'ouest de Bakhmout. Konstantinovka, c'est une place forte qui permet en fait par le sud de s'approcher et d'entourer les deux dernières places fortes véritables de l'Ukraine dans la partie, les 20% du Donbass qui n'ont pas été encore récupérés du point de vue russe par les forces russes, à savoir Slaviansk et Kramatorsk. Ça, c'est une première chose. Konstantinovka, que certains pensent être tombée aux mains des Russes, soyons prudents. En tout cas, les Russes sont quasiment maîtres de cette place forte qui leur permet de dominer ces deux places fortes, de Kramatorsk et Slaviansk. Et au nord, ils progressent du côté de Kupiansk et Krasny-Liman, sur la rivière Seversk et Donetsk, qui étaient en fait des endroits où les Russes avaient abandonné, rappelez-vous, en 2022, lorsque leurs affaires étaient un peu compliquées, ils avaient abandonné ce terrain et c'était un problème opératoire. Ils sont en passe aujourd'hui de reconquérir ces villes qui leur permettront de dominer par le nord ces fameuses deux places fortes de Kramatorsk et Slaviansk, qui en fait sont depuis le début, je pense, de 2022, l'objectif opératif tactique des Russes, puisque en fait, aujourd'hui, pour faire simple, les Russes ont reconquis les places fortes en avant du dispositif défensif ukrainien. Les Ukrainiens sont dos au mur de leurs lignes Maginot érigées depuis les années 2014 jusqu'en année 2022, et derrière eux, en fait, il n'y a plus cette barrière défensive. Et les deux derniers bastions de cette dernière ligne de défense, c'est Kramatorsk et Slaviansk. Ceci dit, aujourd'hui, tout le monde pense que pour reprendre ces bastions, c'est une guerre de position acharnée qui peut durer des mois, voire des années, et qu'il semble que les Russes soient plutôt dans un mouvement d'encerclement comme faisaient les troupes au Moyen-Âge. On encerclait les villes, on les assiégeait et on attendait tout simplement leur reddition. Merci, Richard.
Ce que je trouve fascinant dans ce que vous nous décrivez, c'est qu'on a l'impression, on est en 2026, de se retrouver en 2022-2023 où le front est quasiment figé. Il y a toujours cette idée de une fois passée la ligne de défense, c'est la grande plaine qui s'ouvre et on pourra débouler jusqu'à Kiev. Donc, malgré tout, qu'est-ce qui a changé?
Alors, vous avez raison. En fait, d'abord, quand on est à l'offensive, on a toujours, c'est toujours plus compliqué quand on est en défensive. Ça, c'est une idée quand même assez importante, surtout quand les Ukrainiens se sont préparés depuis des années, 2014-2022, avec l'aide de la CIA, de l'OTAN, déguisée, etc. Donc, en fait, ce n'est pas que les Ukrainiens qui s'étaient préparés. Ils s'étaient préparés avec le soutien de, tous ces alliés. Donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, les choses sont compliquées. Ensuite, cette ligne était, comme je l'ai plusieurs fois expliqué ici, adossée à des mouvements de terrain urbains. C'est le contexte le plus difficile de la guerre. La guerre urbaine, c'est la guerre la plus difficile. Et tous ces paramètres font que la conquête russe du Donbass est tout sauf une promenade de santé. Les chiffres des pertes, on les connaît pas, mais à l'évidence, ils sont très élevés. Et donc, le rythme, lui, était... Il y a eu deux mouvements entre 22 et 24, 25, 26. Il y a eu d'abord la reprise en main de l'offensive, la contre-offensive ukrainienne, qui s'est achevée par un retrait tactique russe. Ensuite, il y a eu une grande période, en fait, de stabilisation du front, pendant lesquelles les uns et les autres ont blindé leur position et préparé leur offensive. Et à partir de 2024-2025, on a eu une reprise de l'initiative russe, mais très lente, qui a conduit plusieurs mois à la reprise de Bakhmout. Ensuite, il a fallu plusieurs mois pour la reprise d'Adivka, autant de places fortes importantes. Mais ces délais ont diminué d'une place forte à une autre. Et aujourd'hui, les Russes sont dans attaque close de la ligne défensive et sont dans ce mouvement qui peut prendre des mois. Moi, je me garderais bien de dire que les Russes peuvent récupérer les 20% du Donbass qui leur manque. En tout cas, c'est leur objectif. Et clairement, aujourd'hui, on disait que l'offensive du printemps n'avait pas existé et que l'offensive de l'été serait brisée par cette capacité de frappe ukrainienne dans la profondeur, visant en particulier tous les approvisionnements en carburant. Certains pensent aujourd'hui que cette offensive de l'été a commencé au rythme des Russes, c'est-à-dire un rythme qui est le même depuis qu'ils ont repris l'offensive en 2023-2024. C'est qu'ils prennent leur temps, entre guillemets, pour ménager au maximum leur potentiel humain qui... malgré tout, paye un lourd tribut en fait à cette guerre de position et de tranchées. Je pense que les choses sont assez claires aujourd'hui. Et voyez, je lisais à nouveau un grand papier du New York Times ce matin, journal démocrate s'il en est aux États-Unis, mais avec des journalistes qui font leur travail. Un reporter à Kramatorsk et à Slaviansk aujourd'hui, hier, c'est le dernier jour, disait que pour accompagner cette offensive tactique sur le terrain, les Russes bombardent comme jamais avec les fameuses bombes planantes de plusieurs centaines, voire milliers de kilos. Ils bombardent en fait les places fortes de Kramatorsk et Slaviansk. Et on assiste aujourd'hui à un exode très important de cette population qui a été restée sur place depuis le début de la guerre. Population civile. Donc on voit bien que les choses sont en train de basculer et que bientôt, dans ces régions-là où les civils étaient restés, il n'y aura plus que des militaires. Et donc le champ sera ouvert pour les batailles finales qui peuvent prendre encore, bien sûr, plusieurs mois. Sans évoquer d'autres perspectives. Et puis peut-être un dernier point sur l'Ukraine. On voit que les Ukrainiens sont quand même inquiets aujourd'hui de ce qui se passe. Le fameux crédit de 90 milliards débloqué par la Bruxelles depuis le départ d'Orban de la scène européenne arrive au compte-gouttes finalement chez les Ukrainiens. Donc ils ont un problème budgétaire, ils ont un problème humain, on en a parlé. Et on voit bien que par petite touche, on voit bien que Zelensky aujourd'hui a un sujet avec les Américains. Scott Bessent, le patron du Trésor, a laissé fuiter, comme par hasard ces derniers jours, dans la presse américaine, des phrases peu amènes sur le phénomène Zelensky à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron, au G7 la semaine dernière, ou il y a 10 jours, à Évian, avait fait le pari, je reprends les mots de l'Élysée, de réussir à réaligner la position européenne et la position américaine dans la négociation de paix sur l'Ukraine, il semblerait, je suis prudent, que en fait Donald Trump est reparti à Washington sans avoir véritablement lâché rien, enfin sans avancer dans ce sens-là vis-à-vis des Européens. Donc on en est toujours au même point. Ce que l'on sait, c'est que le plan d'Anchorage qui avait été négocié en août 2025, si ma mémoire est bonne, directement entre Poutine et Trump semble, du point de vue américain, tomber à l'eau, et que les Américains seraient ont dans l'idée de réécrire en fait un plan de paix, sachant que les Russes s'en plaignent d'ailleurs, les Américains, comme cela ne vous a pas échappé, ont été très occupés par l'Iran, et que la diplomatie américaine aujourd'hui se résume aux envoyés spéciaux de Donald Trump, c'est-à-dire le fameux Jared Kushner, le fameux Steve Witkoff, il m'en manque un ou deux au passage.
J.D. Vance.
Alors évidemment, le vice-président J.D. Vance et le patron des diplomates Marco Rubio, d'un tout petit noyau en fait d'hommes de confiance et de très hauts dirigeants américains qui gèrent en direct les négociations compliquées et cruciales avec Israël et le Liban, avec l'Iran, et ces gens-là, en fait, pendant ce temps-là, ont un peu oublié les Russes. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que les Russes eux-mêmes s'en plaignent quand vous les interrogez en disant ils sont plus là, ils ont autre chose à faire. Et donc, il serait temps qu'ils reviennent à la table des négociations pour relancer l'affaire. On en est là aujourd'hui. Les choses peuvent, en fonction de ce qui va se passer sur le terrain, les choses peuvent évoluer. Et puis, les choses vont aussi évoluer, puisqu'il ne nous a pas échappé qu'Emmanuel Macron vient de perdre un de ses principaux alliés dans
Soyez sympa, laissez-moi vous poser la question.
Allez-y.
J'ai deux questions en une demi-heure. Et alors, justement, d'un point de vue diplomatique, la coalition des volontaires menée par Emmanuel Macron vient de perdre un de ses plus fidèles soutiens, Keir Starmer. Pensez-vous que Burnham, le prochain premier ministre britannique travailliste lui aussi, aura la même position que Keir Starmer sur l'Ukraine?
Ce qui me fascinait avec Keir Starmer, c'est qu'encore ces derniers jours, il était au plus bas dans les sondages. Il sortait d'une élection d'élection locale absolument écrasante pour son opposant
Nigel
Farage de Reform UK, le parti pro-Brexit. Et aussitôt après, pour essayer de masquer sa défaite et de se rétablir, il sortait de son chapeau une intervention de la marine britannique, car il existe, paraît-il, encore la marine britannique, contre un pétrolier fantôme de la flotte russe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Starmer était en difficulté sur le plan intérieur, il passait à l'offensive sur le plan extérieur, sur les sujets qui, pour le coup, rassemblent psychologiquement et politiquement la majorité des Britanniques, à savoir l'ours russe. Il y a un problème psychologique entre les Britanniques et les Russes. Avant, c'était les Soviétiques, aujourd'hui, c'est les Russes. Et en fait, c'est peut-être un sujet sur lequel les Britanniques, une majorité de Britanniques se retrouvent, au dictateur russe. Hier, c'était le Soviétique, aujourd'hui, c'est les Russes, demain, ça peut être un empereur. Je pense que ça ne changera pas dans l'esprit des Britanniques. Ils ont un problème technique avec les Russes. Ils ne regardent pas ce dossier de manière rationnelle. Et évidemment, Emmanuel Macron sent instrumentaliser son ami Keir Starmer, car je vous rappelle quand même que Starmer et Macron sont à l'origine de cette fameuse coalition des volontaires qui est née sur le papier, qui aujourd'hui a pour corps uniquement un état-major européen dans lequel il y a une trentaine de participants européens qui se trouvent au Mont Valérien, à l'ouest de Paris, sur les hauteurs de Paris, et qui fait de la planification, hors sol, en quelque sorte, puisque tout cela n'existera jamais si les Russes s'opposent à l'envoi d'une force de coalition sur le terrain, ce qui est aujourd'hui l'option la plus favorable. Et donc, Keir Starmer, il y a deux jours encore, au moment où on disait qu'il ne pouvait pas tenir, lui disait « si, bravache, j'irai jusqu'au bout de mon mandat ». Il a été propulsé en juillet 2024 à Downing Street à la faveur en fait de la victoire écrasante de Nigel Farage sur les conservateurs qui venaient de quitter le pouvoir. Il s'est donc retrouvé en fait face à son parti à récupérer les fruits du vide politique créé par les conservateurs, et dans une victoire inédite historique, le parti travailliste, donc le Labour, s'est retrouvé avec un nombre de députés absolument incroyable. Et cet homme qui était, c'est un avocat, un ancien procureur, plutôt wokiste, progressiste, réputé vraiment pas très chaleureux, plutôt coincé, c'est le côté britannique coincé, pas orateur, s'est retrouvé propulsé à Downing Street par la force des événements. Et en fait, il y a deux jours encore, le Keir Starmer se gargarisait d'avoir contrôlé un pétrolier fantôme. Je ne sais plus si c'est dans la Manche ou en mer du Nord. C'est le sport favori d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer de communiquer en fait sur ces opérations coup de poing, qui par ailleurs ont sans doute des vertus, mais qui permettent de faire vivre, de cacher la poussière sous le tapis, comme on dit, et de faire vivre le mythe de cette Europe à l'initiative face à la Russie. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, il n'y a pas de raison que Andy Burnham ne reprenne pas la balle au vol, parce que ça ne mange pas de pain. Mais Burnham, vous savez, il a ceux qui le connaissent ont une expression à son propos, on l'appelle le caméléon politique. C'est un garçon qui paraît-il est plutôt beau, plutôt chaleureux, plutôt bon orateur, qui sait parler le langage des ouvriers du nord-ouest de la Grande-Bretagne, esselé par la mondialisation et l'effondrement de l'économie britannique. Je parle de la région de Manchester, entre Liverpool et Manchester. Il a été élu d'un petit bled en 2001 député travailliste. Il vient d'être réélu, il a été réélu jeudi dernier député de la ville de Makefield, qui se trouve à quelques kilomètres au nord-ouest de Manchester, ce qui lui permet aujourd'hui d'arriver au Parlement et donc de briguer la présidence du Parti travailliste, et donc de pouvoir prendre la suite de Starmer au gouvernement. Mais ce garçon, en fait, était à 24 ans, était assistant parlementaire. Quelques années plus tard, je reprends mes notes pour pas vous dire de bêtises, était à nouveau dans les structures, dans les arcanes du Parti travailliste. Il a, en fait, gravi toutes les marches. Par deux fois, il a échoué à récupérer la présidence du parti. Il était un peu jeune et un peu trop ambitieux, un peu trop rapide. En revanche, il a été plusieurs...
Vous n'êtes pas en train de parler de Gabriel Attal, là, hein.
Non, mais parce qu'à la différence de Gabriel Attal, lui, il arrive à Downing Street, il a 56 ans. Donc, vous voyez, il a quand même subi un certain nombre d'échecs et il a été pas mal dans la soute, comme on dit, avant d'arriver sur le devant de la scène. Dans la soute, il l'a été à l'intérieur. Au début des années 2000, au moment où on commençait à parler de l'affaire des Groomings, c'est ce scandale sexuel absolument incroyable de Pakistanais mettant en esclavage des petites filles blanches britanniques pendant des années, qui a été étouffé par le gouvernement, y compris par lui quand il était à l'intérieur. Il est passé également au Trésor rapidement, il est surtout passé à la Santé, et j'en oublie un autre au passage, à la Santé, où il s'est vanté de mettre un frein à holà aux privatisations pour renationaliser le fameux NHS, qui est le service de santé britannique, qui est complètement par terre. Il était très internationaliste et interventionniste du temps où Corbyn était le patron du parti, Corbyn, un gauchiste patenté. Puis ensuite, il est devenu un peu plus wokiste et progressiste lorsque la mode est passée avec l'arrivée de Starmer. Il était très europhile. Aujourd'hui, entre-temps, il a conquis la mairie du Grand Manchester, qui est la deuxième grande métropole britannique avec 2,7 millions d'habitants. Et là, il est devenu un peu moins europhile parce qu'il a compris qu'il avait affaire. Son électorat était celui qui avait voté pour le Brexit le 24 juin 2016, demain ou après-demain, on fête donc les 10 ans du Brexit. Donc c'est un garçon qui visiblement s'adapte. Alors là, il n'y a pas que Attal, hein, on pourrait en prendre beaucoup chez nous, hein, vous voyez. Il évolue en fait. Et ce que l'on comprend, donc il était très pour l'immigration. À la tête du Grand Manchester, il disait pique-pendre contre un décret britannique interdisant à des gens qui ont un visa provisoire de pouvoir jouir des prestations sociales, par exemple. Et on l'appelait d'ailleurs celui, au sein même de son camp, on l'appelait celui qui voulait une Grande-Bretagne aux frontières ouvertes. Aujourd'hui, il a durci sa position parce que la mode est à cela. On rappelle peut-être qu'entre 2021 et 2024, 4,5 ou 6 millions d'étrangers sont arrivés sur le sol britannique, dont un quart sont réputés être restés, ce qui est un des grands échecs et problème en fait qui fait que Keir Starmer et les travaillistes sont aujourd'hui balayés par les événements. Donc l'immigration, la santé par terre, personne ne l'a remonté, la croissance britannique a disparu depuis des années, et en fait ces trois sujets montre une chose, puisqu'on a encore quelques minutes.
Non, une.
Une minute, eh bien, c'est que les conservateurs, puis les travaillistes, surtout les conservateurs, n'ont pas su mettre en œuvre les fruits, les résultats, les opportunités créées par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce qui donne dans les sondages des gens qui disent bah finalement peut-être qu'on l'aurait pas fait, mais en réalité quand vous creusez, ils sont surtout déçus de la politique menée depuis, mais ne voudraient surtout pas retomber sur les fourches caudines de l'Union européenne.
Eh bien, merci beaucoup Mériadec Raffray, et à la semaine prochaine pour la dernière de la saison de cette analyse géopolitique.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et pour cette revue de presse, comme chaque jour, nous retrouvons Gilles Brochard. Gilles Brochard qui a froid aujourd'hui, c'est ce
oui,
qu'il nous disait.
Je suis transi dans ce studio.
Voilà, c'est peut-être la seule personne de France qui se plaint aujourd'hui du froid polaire qui nous accable avec seulement 40 degrés.
Mais il y a un petit vent léger dehors, vous savez.
Bah, petite brise plutôt du Sirocco.
Oui, voilà, c'est ça.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Franck, bonjour Alexandre.
Alors, l'affaire Liana est relancée depuis hier par la remise à Sébastien Lecornu d'un pré-rapport d'inspection visant à déterminer les défaillances dans le traitement des plaintes visant Jérôme Barella.
Oui, alors comme le précise La Croix, ce pré-rapport a été réalisé par l'Inspection Générale de la Justice et celle de la Gendarmerie Nationale à partir d'une trentaine d'entretiens menés auprès de tous les professionnels ayant eu à organiser ce dossier, magistrats, greffiers, gendarmes. Alors l'éditorial de Vincent Trémollet de Villers fait mouche dans le Figaro. Chef vieilli, chargé d'honneur, gâté par une longue vie de bureau et d'habileté, on s'était accoutumé durant de longues années de bureaucratie à beaucoup d'insuffisances qui prenaient rarement un caractère tragique. Alors ce ne sont pas des extraits du rapport sur Liana, mais des phrases tirées de L'étrange défaite de Marc Bloch, résonance saisissante, écrit l'éditorialiste. Comment, quand l'historien mort pour la France entre en Panthéon, ne pas appliquer ces formules au naufrage judiciaire dont une enfant de 11 ans a été la victime. La dilution des responsabilités est au cœur de la méditation de Marc Bloch. C'est aussi la cause profonde de la défiance grandissante qu'inspire de plus en plus la justice. Et Vincent Trémollet ajoute « Tout citoyen qui, en France, viole une règle de droit prend le risque d'en rendre des comptes à la justice, mais ceux dont le métier est d'appliquer le droit ne rendent de compte à personne. C'est l'éthique d'irresponsabilité, la réponse par le Conseil supérieur de la magistrature. » Tient de la provocation.
Et quelles sont les propositions qu'ils ont faites dans ce rapport ?
Alors, le rapport suggère que d'abord que l'article 43 du Code de procédure pénale, écrit le Parisien, permette aux enquêtes de se poursuivre dans le secteur où vit la victime. Actuellement, la saisine d'un service est dictée par le lieu de commission des faits ou l'adresse de mise en cause. Les experts, par ailleurs, préconisent en cas de transfert de dossier que les parquets concernés échange en direct de façon obligatoire à propos du cas dont il est question. Dans la préhistoire de la fameuse affaire Liana, le rapport montre que tous les signaux d'alerte clignotaient au rouge, mais ils n'ont pour nombre d'entre eux pas été vus. Pierre Bienvaux, dans La Croix, rapporte que 134 personnes ont été mises en détention provisoire pour violence sexuelle sur des mineurs à ce jour depuis le réexamen de 70 000 plaintes demandées par le garde des Sceaux à la suite donc de l'affaire, à savoir un manque d'actes d'enquête ou pas de garde à vue, a précisé une source gouvernementale de l'AFP. Il faut donc se rendre à la raison. Les magistrats craignent ne pas pouvoir réexaminer, évidemment, l'ensemble des plaintes avant le 14 juillet. Voilà, c'est à lire dans la Croix.
Et alors que le Royaume-Uni célèbre les 10 ans du Brexit, on a appris la démission de Keir Starmer 2 ans après son arrivée à Downing Street. Il restera en fonction jusqu'à la désignation de son successeur à la tête du Labour.
Oh là là, quel bel accent. Alors l'opinion revient sur les 7 dossiers qui ont plombé le mandat du Premier ministre britannique, parlant de celui qui a perdu sa crédibilité par son absence de vision et de flair politique. Chloé Goodenough, la correspondante de l'Opinion, passe en revue ces 7 dossiers. Et parmi eux, la fin des aides au chauffage pour les personnes âgées, mesure qui n'était pas dans le programme travailliste. Le scandale des cadeaux et avantages en nature, car sa mère a accepté plus de cadeaux que tout autre député lorsqu'il était chef de l'opposition, l'équivalent de 94 000 euros en 2023. Des hausses d'impôts sur le dos des entreprises. Pour respecter les promesses, le gouvernement mise sur une hausse des cotisations patronales tout en abaissant le seuil de cotisation. La réaction des milieux d'affaires est virulente. Le scandale Mandelson aussi, en septembre 2025, les fichiers Epstein révèlent que Peter Mandelson, l'ambassadeur britannique aux États-Unis, a entretenu une relation amicale forte avec le milliardaire américain. Et puis en février, on a appris que celui qu'on nomme le prince des ténèbres aurait transmis des informations sensibles à Epstein quand il était ministre du commerce sous Gordon Brown dans les années 2000. Une enquête révélera que la procédure de sécurité n'avait pas été validée. Bref, ce scandale cristallise tout ce contre quoi Keir Starmer disait s'opposer en politique. Le manque de moralité, le manque de professionnalisme et le népotisme des classes dirigeantes, c'est à lire dans l'Opinion. Voilà, et le thé est très amer.
Et hier, le pape Léon a reçu au Vatican une délégation de la Fondation Le Jeune.
Oui, on n'en a pas beaucoup parlé. Le pape a prononcé en fait un discours que relaie dans son intégralité le site Le Salon Belge, animé par Guillaume de Thieulois. Et voici un extrait. Homme de science et de sagesse, Jérôme Le Jeune a rapidement compris que sa découverte scientifique serait utilisée pour éradiquer les personnes porteuses de trisomie 21 avant leur naissance. Il n'hésita pas alors à se faire leur avocat, dénonçant la transgression du serment d'Hippocrate et ce nouvel eugénisme qu'il qualifiait de racisme chromosomique. Ses prises de parole prophétiques le conduisirent à défendre la vie de toute personne humaine en référence à l'inviolable dignité qui a son origine dans l'acte créateur de Dieu. Il interpella à cet égard et conseilla des institutions et certains milieux scientifiques. Puis le pape a terminé son discours par ces mots « Le message et l'œuvre du vénérable Jérôme Le Jeune repose sur l'universalité de la raison et du cœur conjugués. Puisse-t-il inspirer le courage de la vérité aux nombreux jeunes et professionnels désireux de cohérence ?» Fin de citation, c'est à lire sur le site Le Salon Belge.
Et c'est aujourd'hui que l'historien Marc Bloch entre au Panthéon avec son épouse.
Oui, alors toute la presse revient sur le destin tragique de l'auteur de L'étrange défaite qui a été publié à titre posthume. Je vous invite à lire la tribune dans le Figaro de Cédric Martin, vous savez, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat, qui rappelle qu'aujourd'hui, on traitera aujourd'hui au Sénat du projet d'actualisation de la loi de programmation militaire qui devrait être rejeté en commission. Alors voici ce qu'il dit. Le jour même où la France honore l'historien et l'officier qui sut, avant les autres, dénoncer l'impréparation du pays face au conflit, une partie des parlementaires, alignés sur le gouvernement, refuse de reconnaître l'ampleur du retard à combler et l'urgence à revoir le format des armées. Et il ajoute, comment peut-on alerter sur l'imminence de la menace, décrire le monde comme de plus en plus dangereux et différer dans le même mouvement le retour des dépenses de défense au niveau moyen où elles étaient avant l'effondrement du bloc de l'Est. Ce que propose le gouvernement, c'est que notre effort de défense représente en 2030 moins de 46% de celui de l'Allemagne. Mais quelle sera la place de la France en Europe si elle traîne des pieds en matière de défense, alors même que c'est l'un des derniers secteurs où nous avions une avance stratégique, un réel poids géopolitique, une capacité à agir. Voilà, c'est à lire dans le Figaro.
Merci beaucoup Gilles, et tout de suite petite zone libre.
Zone libre.
Et pour cette zone libre, nous recevons Maëlys Clauzel. Maëlys Clauzel, comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, très bien cher Alexandre, et vous ?
Bah écoutez, pas trop mal, je survis, je me remets de mon délicieux week-end. Alors, nous avons 2 minutes 30, je crois que Magda a une petite nouvelle animalière à nous donner dans un instant, hein, Magda qui nous rejoint simplement. Eh bien, avant cela, parlons un petit peu de la fête de la musique quand moi de mon côté, j'avoue humblement prendre plaisir à suivre. J'étais à Laval, pour tout vous dire, et c'était tout à fait
agréable. En Mayenne.
Oui, en Mayenne.
Magnifique.
Oui, alors Gilles, ils vous en pensez quoi, tiens, de la fête de la musique?
Bah, moi, ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé, puisque je trouve que dans les grandes villes, c'est quand même un jour qui est sujet à beaucoup de perturbations, tout ça. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'à Paris, cette année, ça a été plus ou moins, hein, bien sûr, calme. Rien à voir avec, par exemple, les scènes de liesse, entre guillemets, des victoires du Paris Saint-Germain, mais moi, ça n'a jamais été véritablement ma tasse de thé. Je pense que c'est peut-être un peu plus agréable dans les petites villes ou petits villages, mais à Paris, moi, ça m'a trop, enchanté.
Il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est tous les concerts qui ont lieu dans les églises. Il y a eu beaucoup de concerts dans les églises à Paris, donc c'est plus en effet évidemment des musiques spirituelles ou des trios à cordes ou des orchestres, des petits orchestres avec des chants. Et je pense que là aussi, il y a une petite... voilà, c'est un peu en parallèle à la liesse populaire des gens qui sautent, qui boivent, qui jettent, qui crachent. Parce qu'on a vu quand même beaucoup de déchets. Regardez dans le quartier des Halles, c'est épouvantable gens font comme dégâts. Alors qu'il y a beaucoup d'endroits où on a pu faire avec plus de tranquillité. Voilà. Vous savez que, comment il s'appelle, Consigny, là, il est pour l'abrogation de cette journée européenne de la musique. Moi, je pense que la musique, dans un pays comme la France, comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, ou même en Italie, évidemment, c'est tous les jours la fête de la musique. Et puis chacun peut vivre sa musique au rythme de sa vie.
Oh, c'est mignon, ça, Gilles.
C'est long, surtout.
Et Franck, alors?
Oui, bah, la fête de la musique, bah, moi, je voudrais vous réconcilier la culture et la politique et la fête de la musique, puisque vous décriez ce moment-là depuis tout à l'heure, et je trouve
ça
triste.
Ça va.
À l'Élysée, on a fêté la fête de la musique, figurez-vous. Voilà. Oui, vous le voyez venir, et il y a eu un DJ dont j'ai oublié le nom, mais c'était pas très grave.
Vaut mieux.
Et qui a fait un remix du discours célèbre de Macron, et je vous propose ce moment insupportable pendant quelques secondes. De toute façon, il nous en reste que 20, donc ça ira vite. Bouchez-vous les oreilles. Voilà.
Ouais, vous savez quoi, et je vais vous dire position polémique, j'aime bien.
Vous aimez bien, mais je vous enverrai le
vous
disque.
Envoyez-moi le lien, tout à fait, ça m'ira très bien.
Et juste pour dire, c'est la réalité, enfin, c'est ce qui a été joué dans le jardin de l'Élysée avec DJ qui a remixé Macron.
J'aurais bien aimé être là, je le dis, for sure, exactement.
Moi, je pense que c'est pas tellement le lieu de l'Élysée de faire ce genre de partie. Excuse me.
Oui, c'est l'heure.
Merci.
Et puis alors, dernière chose.
Oh, non, mais on lui dit que c'est fini.
Il a quand même, moi, il m'a choqué, il a dit bonjour, monsieur, dame.
Oui, monsieur, dame, oui, c'est vrai. Ouais.
Bon, écoutez, on va finir sur cette belle note musicale. Merci, chers auditeurs. Merci à tous d'avoir été là ce matin ici sur Ligne Droite. Merci à Maïlys, merci à Gilles, merci à Franck, merci à tous ceux qui ont participé à cette matinale. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Mais avant de vous laisser, nous avons besoin de vos dons.
Voilà, vos dons pour faire vivre Radio Courtoisie et continuer le combat, défendre vos idées. Rendez-vous, s'il vous plaît, sur soutenir.rc.fr. Soutenir.rc.fr. Merci.
Merci beaucoup et tout de suite, on écoute Trump, Meloni, la fin de l'atlantisme italien. C'est la question qu'on a posée à Alice Carazza.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler de l'affaire Trump-Meloni. Assiste-t-on à la fin de l'atlantisme italien? C'est la question que nous allons nous poser avec Alice Carazza. Alice Carazza, bonjour. Est-ce que vous êtes bien avec nous?
Bonjour, c'est un plaisir, vraiment.
Alors, vous êtes analyste politique italienne. Ma première question, c'est qu'à la sortie du G7, je résume l'affaire, Donald Trump a dit avoir accepté de prendre une photo avec Giorgia Meloni parce que celle-ci l'aurait supplié de prendre cette photo. Donc la présidente du Conseil italien a vivement réagi et le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé vendredi sur X annuler la visite d'État qu'il avait prévue aux États-Unis les 21 et 22 juin. Alors, racontez-nous un petit peu toute cette affaire.
Oui, l'affaire, nous devons dire que continue, parce que pendant la nuit aussi, Trump a attaqué à nouveau Meloni. Il a dit que l'Italie a été très mauvaise. Mais en réalité, cela ne fait même plus la une. Je crois qu'il faut sortir aussi du feuilleton et revenir aux faits. Depuis plusieurs jours, on parle des photos, des petites fraises, tandis d'insultes. Mais si l'on revient simplement à ce qui s'est passé au G7, on voit quelque chose d'assez révélateur. parce que Macron déroule les tapis rouges jusqu'à Versailles. Nous avons aussi Merz qui offre à Trump les maillots de la Mannschaft floqués de son nom et du numéro 47. Et quant à Starmer, il avait déjà joué sa meilleure carte, qui était la visite du roi à Washington. Et puis, il y a Giorgia Meloni. Pas de Versailles, pas de cadeaux, pas de roi. Pourtant, c'est elle qui aurait supplié pour une photo. Permettez-moi de trouver cela assez étrange. Et Trump choisisse d'attaquer précisément l'une des rares leaders du monde qui n'a jamais donné l'impression de lui courir après. Mais au fond, peu importe, parce que les selfies passent et les intérêts nationaux restent. Et aujourd'hui, les vrais sujets s'appellent Méditerranée, Afrique, énergie, immigration et aussi Chine. C'est sur ces dossiers que l'Italie entend être jugée. Et je pense bien que Meloni l'a compris.
Et alors, justement, bon, après, il y a eu quand même cette affaire, ces phrases. Comment ça a été pris par l'opinion italienne, même par les partis d'opposition? Est-ce que ce qu'on a vu d'un côté, c'est, on va dire, est-ce qu'on a vu que Giorgia Meloni était considérée comme faible sur la scène internationale? Ou alors est-ce que les Italiens se sont sentis insultés par l'insulte qui était retombée sur leur chef d'État?
Par l'opposition, c'est normal parce que ils font leur jeu. Et c'est un jeu politique, c'est normal. Mais il a gagné aussi les supports de l'opposition. En général, elle n'était pas faible. Je dirais même que cette séquence l'a transformée en une sorte d'héroïne politique aux yeux d'une partie de l'opinion publique. Il faut comprendre aussi une chose. Trump n'est pas particulièrement populaire en Italie, contrairement à une idée très répandue. Mais il ne bénéficie pas d'un soutien massif, ni dans l'électorat de droite, ni évidemment dans celui de gauche. Plus largement, son image est négative dans une grande partie de l'Europe. Je pense que la seule exception, c'est la Roumanie. Mais pour Meloni, cela a parfois été un coup de politique, être ami de Trump. C'est pourquoi la réaction de l'opinion italienne est très intéressante. Imagine qu'après les insultes, son compte Instagram a gagné plus de 100 000 followers en seulement 24 heures. Et dépasse désormais les 7,2 millions totaux. Et elle reste la dirigeante européenne la plus suivie sur les réseaux sociaux. Mais surtout, elle a réussi à transformer une attaque personnelle dans une débat sur les rôles de l'Italie dans l'Occident.
Oui, c'est-à-dire que si on comprend bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit « c'est pas moi qui suis insulté, c'est toute l'Italie qui est insultée quand Trump, justement, donne sa petite phrase, c'est ça ?»
Exactement.
Alors, justement, moi, ce qui m'a surpris un petit peu avec toute cette affaire, pour tout vous dire, c'est que depuis le début du second mandat de Donald Trump, Rome, Washington, enfin, semblaient avoir de très bonnes relations quand même, mais on a l'impression que depuis l'affaire du Groenland, il y a maintenant un peu plus de 6 mois, il y a de plus en plus de divisions. Alors, quelle est la situation actuellement entre Giorgia Meloni et Donald Trump et quelles seront peut-être les conséquences à long terme justement entre l'Italie et les États-Unis?
Il faut comprendre que les rapports politiques ne sont jamais figés. Ils changent avec les circonstances, avec les dossiers, avec les intérêts en jeu. Au début du second mandat de Trump, beaucoup ont lu la relation entre Rome et Washington de manière trop automatique, je crois. Meloni est conservatrice, oui, Trump est conservateur aussi, donc l'entente serait naturelle et permanente. Et c'était une lecture trop simple. Les conservateurs italiens, mais et je peux dire aussi européens, et ne sont pas les conservateurs américains. Nous partageons certaines valeurs, bien sûr, la souveraineté, les frontières, la liberté, la critique d'un certain progressisme idéologique. Mais nous avons des histoires très différentes, des cultures politiques très différentes et des intérêts géopolitiques différents. Les États-Unis sont une puissance continentale et globale. L'Italie est, par exemple, une puissance européenne et méditerranée. Elle regarde à Washington, mais elle regarde aussi à Bruxelles, à l'Afrique, aux Balkans, au Moyen-Orient aussi. Donc, il peut y avoir proximité, mais sans alignement automatique.
Oui, mais alors, enfin, cette question me vient, mais quand même, on avait l'impression que Giorgia Meloni, c'était un petit peu l'interlocutrice privilégiée de Donald Trump pour parler à l'Europe de manière générale. C'est-à-dire que les relations étaient compliquées avec Macron, étaient compliquées avec Keir Starmer, étaient compliquées avec Friedrich Merz ou avec Pedro Sanchez. Giorgia Meloni, c'était la seule présidente d'une grande puissance européenne qui, pour le coup, s'entendait bien avec Donald Trump. Est-ce que ça aura des conséquences sur le long terme avec vos relations avec les États-Unis?
Non, je ne les crois pas, parce que les rapports entre l'Italie et l'Amérique, ce sont toujours les mêmes. Nous l'avons vu aussi pendant la période de Biden. Nous avons Meloni avait des bonnes relations aussi avec Biden. Et ce ne change pas, je pense. Simplement, nous avons maintenant Trump comme présidente et c'est notre interlocuteur, mais c'est un allié. Nous restons sur sa position, sur notre position initiale.
Et alors,
Et
justement,
je peux
oui.
faire aussi des exemples parce que, par exemple, tu as nommé Tajani. Tajani a annulé son déplacement à Miami, mais il continue à parler avec Marco Rubio. L'Italie sera aussi au sommet de l'OTAN à Ankara. Meloni sera là. Et nous avons aussi toujours Tajani à Villa Taverna, ainsi l'ambassade américaine, pour l'anniversaire de l'indépendance du 4 juillet. Et de plus, dans les prochains jours, Carlo Fidanza, le chef de la délégation à Bruxelles, sera à Washington pour renforcer les liens et annuler ces
Ouais.
tensions.
Et, mais alors, effectivement, donc on voit que la logique est plutôt à l'apaisement du côté de l'Italie, mais d'un autre côté, on voit quand même que les droites en Europe s'éloignent de plus en plus de Donald Trump, qu'elles ne voient pas comme un allié vraiment fiable. Je pense à par exemple Jordan Bardella et Marine Le Pen en France, qui essayent de prendre leur distance un petit peu avec Donald Trump. On sent que Nigel Farage, voilà de son côté, lui aussi est sur et un petit peu, c'est pas trop sur quel pied danser. On sent que en Hongrie ça a pu causer un problème à Viktor Orban également, cette affaire d'être soutenu par Donald Trump. Est-ce qu'on peut arriver à une forme de divorce entre les deux rives de l'Atlantique sur le plan de ces droites, ou est-ce que selon vous, on va toujours finir par se rejoindre pour des raisons de convergence idéologique?
La réponse, c'est non. Mais c'est vrai que beaucoup de forces politiques de droite se sont détachées de Trump. Mais c'est aussi la conséquence de cette distance entre cultures politiques différentes dont nous parlions. En Europe, aujourd'hui, les seuls pays, comme je disais, qui, parmi les partis conservateurs, apprécie encore Trump, c'est la Roumanie.
Oui.
Et les sondages le montrent. Ailleurs, ce n'est tout simplement pas possible. Parce que quand on se comporte comme un bully, Il ne faut pas s'attendre à être applaudi. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus s'asseoir à la table des discussions. Comme je te ramène l'Italia, maintenant un lien diplomatique avec l'Amérique. Ainsi, je ne crois pas du tout un divorce. Je vois une redéfinition des équilibres. Et je pense que c'est aussi bon parce que nous devons parler avec les États-Unis d'égal à égal.
Oui, mais justement, c'était un petit peu ma dernière question pour vous, Alice Carazza. C'est que, alors, il nous reste 2 minutes, hein, donc rapidement, on voit qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est le cas de Giorgia Meloni, mais ça a été le cas d'Emmanuel Macron ou de Keir Starmer ou de Pedro Sanchez par le passé. Donald Trump prend plaisir à humilier ses partenaires européens, à utiliser la force qu'il a justement pour faire des démonstrations, disons. Comment est-ce qu'on rétablit un rapport de force avec les États-Unis en maintenant de bons liens, mais en expliquant que maintenant il faut parler d'égal à égal. Comment on fait?
Et nous le faisons simplement en parlant de manière franche. Et il a un style communicatif, c'est vrai. Trump a toujours la même méthode. Mais nous devons parler comme Europe, pas seulement comme Italie. Ainsi, quand nous avons des attaques directes et personnelles à nos chefs d'État, parce qu'aujourd'hui, il a attaqué à nouveau aussi l'Allemande. Et toujours, nous avons une cible différente. Mais nous devons tenir ouvert les tables plus importantes. Je parle de l'énergie, de la sécurité et aussi de l'OTAN. Et de cette manière, nous pouvons faire, je crois, marcher nos positions. Et si nous les faisons tous ensemble, c'est beaucoup différent parce que nous avons besoin d'une Europe forte. Et c'est ça. Tu dis aussi, et tu parles aussi de Nigel Farage. Oui. Il est beaucoup observé par l'Italie en général, c'est vrai. Son parti est la première dans les sondages maintenant. Et aussi, il a dit clairement au début du mois à la télévision italienne qu'il se considère comme un grand admirateur de Meloni. Et il a aussi dit en février que Meloni avait renforcé la position de tout conservateur européen. Et c'est beaucoup pour un homme qui a fait du Brexit sa raison d'être. Mais la vraie question n'est pas de savoir si Farage aime Meloni ou non. Et nous devons pas créer seulement un pont pour parler avec les États-Unis. Nous avons besoin d'apprendre à parler directement avec nos voix. D'égal, égal.
Voilà.
Je l'ai déjà dit.
On va devoir s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'être venu ici à notre antenne, Alice Carazza. On retiendra ça. Et peut-être qu'effectivement, Giorgia Meloni deviendra un modèle un petit peu de résistance et de résilience, justement, face à ces insultes diplomatiques de Donald Trump. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et on vous dit, on l'espère, à bientôt ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'avoir suivi Ligne Droite ce matin. C'était un plaisir de l'animer en votre compagnie. Ça va être la fin de cette matinale pour aujourd'hui. Simplement, avant de nous laisser, il faut que nous vous fassions passer un message. Je n'ai pas formulé bien ma phrase.
Non, mais ça, on a bien compris quand même. Alors, il faut s'hydrater, il paraît. Bah, écoutez, hydrater Radio Courtoisie, envoyer de l'eau ou plutôt des dons en liquide, par exemple, sur soutenir.rc.fr. Allez bien, hein. soutenir.rc.fr pour hydrater Radio Courtoisie, pour lui permettre de passer l'été. Et Alexandre boit sa bouteille d'eau en même temps, donc voilà, on n'en a plus. soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, merci.
Et voilà, et quel est le programme du jour, Franck ?
Restez bien avec nous dans quelques instants, les mardis de la mémoire d'Anne Colin pour Richelieu et l'histoire avec l'historienne française Françoise Hildesheimer. À midi, le libre journal de la Nouvelle Droite de Xavier Aymant. À 14h, le libre journal de la France Libre, dirigé par Alain Roux. Aujourd'hui, à 17h, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourges pour un entretien avec Aline Voineau pour son livre Napoléon, Louis et Mathilde. 17h30, restons courtois avec Richard de Sèze. Aujourd'hui, la défense française, une promesse d'avenir ou une catastrophe annoncée. 19h30, le libre journal du droit et des libertés d'Olivier Tournafon. Une guerre va-t-elle éclater entre l'OTAN et la Russie? 21h30, le monde de la foi de Nicole Pilorge pour la tendresse de l'homme et la tendresse de Dieu. Enfin, à 23h, la soirée musicale en compagnie d'Aline. Aujourd'hui, les suites chez Erazad et le coq d'or de Rimsky-Korsakov.
Super, et bien nous, demain, nous vous ferons une table ronde sur la question de YouTube et des influenceurs. Est-ce que la droite a perdu la bataille? Et puis on parlera également de nos révélations avec Mathias Renault. Et puis encore d'autres sujets. Voilà, soyez bien présents demain. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à demain, donc 7h.
Ben, j'y serai, à demain aussi, 7h.